C'est un sujet qui me préoccupe, les épreuves, parce que notre vie est faite d'épreuves. Et que dans la Bible, nous voyons comment Dieu s'y est pris pour que des hommes sortent de l'épreuve, la façon dont Dieu a agi, etc., et les conséquences dans le cœur des hommes. Et j'ai pensé à des textes où l'apôtre Paul, dans des moments difficiles, a été consolé. Vraiment, il a été consolé. J'aimerais en lire un avec vous. Je vais commencer par la prochaine prédication. Voyez ? Regardez avec moi dans 2 Timothée au chapitre 1er. En fin de compte, j'anticipe sur la prochaine réunion. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas trop mon habitude. Ne pensez pas que mon esprit est mélangé. Comprenez qu'avant de vivre certaines choses et de faire certaines choses, il faut que le Seigneur nous ait d'abord touchés. 2 Timothée chapitre 1er. Nous allons voir quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que dans un monde d'affliction, il est important que nous apprenions à faire certaines choses. 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Alors, excusez-moi. 2 Timothée chapitre 1er, 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Regardez la prière que Paul formule pour cet homme à cause de son esprit de consolation. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Un homme qui a consolé l'apôtre Paul. Regardez dans Colossiens un petit peu avant. Dans Colossiens, c'est l'apôtre Paul également. Il dit certaines choses, Colossiens chapitre 4, verset 11. Il cite une catégorie de frères et de sœurs qui ont aidé Paul. Et à un moment donné, il parle d'un certain Justus, verset 11, qui s'appelait Jésus, mais il a refusé certainement de s'appeler Jésus, on comprend, il a préféré qu'on l'appelle Justus. Vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume et qui ont été pour moi une consolation. Un autre texte dans les Thessaloniciens. Paul a traversé des angoisses. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous savez que Paul a traversé des angoisses ? 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7. Pareil, il explique certaines choses au sujet de la foi. Et voilà ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, oui, c'était pas rien, Paul, hein, comme quoi, nous avons été consolés à votre sujet. Je voudrais qu'on aborde ce sujet prochainement, la façon dont Dieu veut que nous apprenions à consoler les autres et ne pas devenir, comme les amis de Job, des consolateurs de néant. Les amis de Job qui étaient férus dans la parole de Dieu ont été incapables de comprendre sa souffrance, dont à la place de lui faire du bien, ils lui ont fait du mal. Et quand on voit tous les textes, si vous avez une concordance, vous pouvez déjà préparer la réunion, peut-être même me la faire. Et vous verrez le nombre de textes où Dieu nous demande d'apprendre à consoler. Les trois textes que l'on vient de voir nous prouvent que l'apôtre Paul, dans ses angoisses, ses épreuves, ses difficultés, a eu la grâce d'avoir un frère, une sœur, quelqu'un à côté qui l'a consolé. Quand l'apôtre Paul était en prison, il y en avait qui avaient honte. Des chrétiens avaient honte. S'il est en prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, il faisait mettre les chrétiens en prison avant sa conversion. Eh bien, Dieu lui rend la monnaie. Ils avaient honte. Mais il nous est parlé de cet homme qui n'a pas eu honte parce que cet homme, il comprenait le plan de Dieu. Et pour comprendre ce qu'est la consolation, il faut d'abord avoir été consolé. Alors je vais lire un verset qui nous sert de base depuis plusieurs réunions pour que nous comprenions bien quelque chose. Vous lisez avec moi dans le psaume 9. C'est un verset qui m'a arrêté, préoccupé, parce qu'il y a tant de chrétiens qui vivent mal leur foi. C'est vrai, peut-être qu'il y en a parmi nous, des chrétiens qui vivent mal leur foi, qui sont mal à l'aise à la place d'être dans le repos de Dieu. Et tout ça, Il faut que la vérité nous soit accordée. Un frère ce matin disait dans sa prière, « Seigneur, on ne veut pas entendre des choses agréables. » Il faut entendre la vérité, qu'elle soit agréable ou pas, il faut entendre la vérité. Ce que nous avons besoin d'entendre. Regardez dans le psaume 9, ce verset 11, « Que je vous encourage à méditer dans vos cultes personnels, pour voir si, ça, c'est dans, si, si vous êtes avec. » Dans le psaume 9, au verset 11, il est dit ceci, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Je l'ai souligné en bleu et en rouge. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » C'est-à-dire que ceux qui connaissent vraiment le caractère de Dieu. J'ai parlé dernièrement que le nom dans la Bible, ce n'est pas juste la connaissance et du prénom. Le nom dans la Bible nous parle du caractère de la personne. Ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas faire autrement que de se confier en lui. Et combien de chrétiens n'arrivent pas à se confier en Dieu ? J'aime cette phrase que Jésus a citée lorsqu'il exerçait son ministère. Il a dit, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Ils ne le connaissaient pas. S'ils avaient compris qui ils étaient, ils seraient tous à genoux. C'est vrai ou c'est pas vrai ? S'ils avaient compris à qui ils avaient affaire, ils se seraient tous prosternés, en tous les cas spirituellement. Ils auraient dit, mais quel honneur Dieu accordait à notre génération, à notre nation, de voir le sauveur du monde. Ils auraient tous été bouleversés. Ils ne le connaissaient pas. Quand Jésus dit à des pharisiens quelque chose de nous qui nous déplaît, mais je pense bien que c'est pour nous aussi. Quand Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi. Combien de chrétiens méditent les Écritures ? C'est la même chose. Et pourtant ne sont pas dans la paix. D'ailleurs, combien ont dit, oui, je lis, je prie, ça ne sert à rien. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas Dieu. On accepte leur souffrance, et on va les aider. Mais quelqu'un qui parle ainsi ne peut pas s'attribuer le psaume 9 qu'on vient de lire, parce que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui connaissent la signification de son nom, se confient en lui. Et il faut répéter ces choses, il faut les enseigner. Ce que j'ai déjà dit et souvent dit, c'est qu'on peut faire plein de choses pour Dieu sans le connaître. On peut chanter des cantiques sans le connaître, on peut aller dans une église sans le connaître. C'est pour ça que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Il y a plein de gens dans les églises, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Et je voudrais vous amener à mieux connaître le nom du Seigneur. C'est l'objet de cette prédication, afin que nous devenions les croyants que Dieu veut. Ceux qui connaissent Dieu. Est-ce qu'on connaît le Seigneur ? Vous vous rappelez le jour où Jésus a fait une espèce de sondage ? C'était pas pour savoir ce que les gens pensaient. Il avait certainement autre chose à faire. Jésus n'avait pas ce complexe-là de savoir ce que les gens pensaient. C'est la manie, les sondages. Qui dit-on que je suis ? Oh, y en a qui disent que tu es le prophète Élie. Il y en a qui disent que tu es ceci. Et vous ? Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et toi, mon frère ? Et toi, ma sœur ? Qui est Jésus pour toi ? C'est bien joli de dire oui, les catholiques, ils pensent que Jésus est ci, les adventistes, ils pensent... Et toi ? Qui est Jésus ? Ah, mais je sais, j'ai appris à Noël. On me l'a fait réciter. D'ailleurs, je l'ai appris à l'école du dimanche. Esaïe. Oui, un sauveur nous est né. La Vierge enfantera un fils, on l'appellera Prince éternel, Conseiller, Dieu puissant. Voilà, je sais. Il y a des gens qui sont capables de réciter des versets par cœur. Et continuons, s'il y a des animateurs de l'école du dimanche, continuez à enseigner les enfants à apprendre des versets. Ça sera une grande source de bénédiction. Mais au fait, ce conseiller, le nom de conseiller, est-ce que vraiment je crois que Jésus est un conseiller ? Est-ce que je crois que Jésus est le Père éternel ? Est-ce que je crois que Jésus est le Sauveur ? Qui est Jésus pour vous ? Ceux qui connaissent ton nom, qu'est-ce que vous mettez derrière le nom de Jésus ? Petit Jésus à la crèche, pour des gens ça s'arrête là. C'est d'une tristesse totale pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez que quand Jésus dit « je m'appelle le fidèle », est-ce que vous croyez qu'il est fidèle ? Quand il dit, on va faire les gens bien. Quand il dit qu'il s'appelle El Shaddai, on va parler un peu. Hein? El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire, El Shaddai ? Dieu tout puissant. On le chante des fois. Il y a des gens qui le chantent en pleurant. El Shaddai. Et puis quand vous parlez avec eux dans la rue, on a l'impression que ce n'est plus le même Dieu. Et tout ça, il faut le corriger. Alors, vous savez, dans la Bible, je crois que Dieu porte 150 attributs. 150. Lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il parle d'un certain attribut, on va le lire. Et je voudrais que vous soyez sérieux, je pense que beaucoup vous l'êtes. Pas sérieux dans le sens où vous n'écoutez pas, mais sérieux dans le sens où vous dire c'est la parole de Dieu, je vais la recevoir comme étant la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un mouvement, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à me dire ce matin? De Corinthiens chapitre 1er, voilà comment Paul parle d'un caractère du Seigneur, d'un des attributs du Seigneur. De Corinthiens chapitre 1er. Vous savez mes frères et sœurs, c'est sérieux. Parce que beaucoup de chrétiens vivent mal leur foi et ils rendent sans le vouloir un mauvais témoignage. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors regardez bien, un autre nom, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Voilà comment s'appelle notre Sauveur Jésus, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Si j'insiste sur le mot « toute », c'est parce qu'il faut comprendre qu'il faut saisir ces choses. Toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, voyez, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ça sera l'objet d'une autre méditation aussi sérieuse. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ, pas par nous, hein, attention. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre Dieu. Amen. Vous pourrez lire toute cette épître où l'apôtre Paul règle des problèmes, mais avant de régler les problèmes qu'il y a dans l'église de Corinthe, il va leur parler d'un Dieu, de leur Dieu, qui s'appelle le Dieu de toute consolation, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, la consolation dont nous sommes l'objet. J'ai pris un dictionnaire pour voir ce que signifie le mot consolation. Apaisement, quand on est consolé, on est apaisé. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'apaisement, le calme, la guérison, le soulagement, tous les synonymes, hein? Rasséréner, rassurer, essuyer les larmes, réconforter, remonter, relever, alléger la douleur. Je dis, bon, ça suffit. Mais quelle grâce! La consolation dont nous sommes l'objet. Alors, nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Cène, cette Sainte Cène que Jésus a instituée pour que nous nous souvenions qu'au calvaire, tout est accompli. Moi, j'aime chaque fois que je prends ce petit morceau de pain, chaque fois que je prends ce petit peu de vin, je me représente une scène qui s'est passée à la passion entre Gethsémané et Golgotha. Ce petit peu de vin me rappelle que son sang a coulé, que son corps a été brisé, pour que nous puissions saisir la victoire. C'est une bénédiction, la Sainte Cène. Pour les chrétiens, c'est une bénédiction. Qui sont convaincus que Dieu peut les délivrer dans ce moment où ils prennent la Sainte Cène avec victoire. Vous ne croyez pas que Dieu a institué la Sainte Cène pour nous bénir aussi? Hein? C'est écrit. Alors je vous pose la question, je nous pose la question. Elle est sérieuse, pas que pour nous, pour le témoignage et pour consoler les autres. Connaissons-nous le Dieu toute consolation. Où refusons-nous toute consolation? Rachel, on le voit dans le livre de Jérémie, dans une épreuve qu'elle traverse, elle va refuser la consolation. Elle va la refuser. Vous savez, c'est une question de choix. C'est Jacob aussi, quand il a appris la mort, enfin la mort, oui, la mort de Joseph, il a dit, mon âme reçoit aucune consolation. Il n'en voulait pas. David, mon âme refuse toute consolation. Et les chrétiens, ils acceptent, non, je sais ce, non, vous ne pouvez pas m'aider. Mais si, justement. Même si on n'a pas toujours les mots, même si on n'est pas toujours futé, je crois que quand un homme a été béni, il peut bénir l'autre. Et peut-être que vous faites partie de ceux qui refusaient la consolation, parce que si vous ne la voulez pas, vous ne l'aurez pas. Ne dites pas à Dieu, Seigneur, soigne-moi, si vous ne voulez pas être soigné. N'allez pas voir un docteur si vous ne voulez pas prendre des médicaments. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Devant les conséquences du médicament, non, je ne prends pas ça, moi. Mais ça aurait pu être peut-être pas bien. Il y a des gens, je vais voir le docteur, qu'est-ce qui vous a pris? Oh non, je n'ai pas confiance. Ah, c'est peut-être là le problème. Alors que vous n'ayez pas confiance en votre docteur, vous pouvez changer. Mais si vous n'avez pas confiance en Dieu, ça ira mal. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que nous soyons tous convaincus que notre Dieu est un Père qui console. Peut-être que quelqu'un a besoin de consolation ce matin. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Mais vous savez, peut-être même vous ne savez pas la profondeur de vos blessures. Vous savez, on ne se connaît pas bien. Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que vous êtes mieux que ce que vous pensez être? Est-ce que vous êtes, peut-être vous êtes mieux que vous, ce que vous pensez être? Ça arrive souvent, ça. Que les gens se méprisent tellement ou s'élèvent tellement. Enfin, qu'importe. Mais Dieu est un Dieu qui console. Moi, ça me rassure de savoir que ce matin, nous avons affaire à un Dieu qui console. Comment connaître le repos? Pourquoi des chrétiens sont angoissés? Pourquoi des chrétiens sont tout le temps mal à l'aise? Plutôt, parce qu'ils ne connaissent pas cette consolation. Mardi, on a parlé des problèmes qui sont liés au doute. Quand un homme doute, Dieu dit, mais qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. J'ai expliqué la confusion qu'il y a dans le cœur de certaines personnes qui s'imaginent être humbles. Oh non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne peut pas m'aimer, misérable comme je suis. Ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de l'orgueil. Qui êtes-vous pour penser que Dieu ne vous aime pas? Dieu dit qu'il vous aime. Un point, c'est tout. Vous devez le croire. Amen. Vous devez croire que Dieu vous aime. Et ainsi de suite, voyez comment on est capable de confondre les choses. Et c'est valable pour tous les autres domaines. Et je crois que l'Église du Seigneur, dans un temps où notre terre est affligée, vous ne croyez pas que le monde est affligé? Vous ne trouvez pas? Comment vivons-nous notre foi? C'est quand même une question que nous devons nous poser. Nous sommes là, bien sûr, pour recevoir ce matin, mais nous sommes là pour être touchés par la grâce de Dieu afin de pouvoir donner à notre tour. Pourquoi des chrétiens sont mal à l'aise en ce qui concerne le présent? Il y a des chrétiens qui ne vivent jamais bien le présent, ce n'est pas normal. Pourquoi des chrétiens sont tout le temps troublés par rapport au passé? Est-ce qu'ils ne doutent pas du pardon de Dieu? Est-ce que quand Dieu pardonne, il pardonne? Moi, je crois que oui. Des gens tourmentés. Moi, j'ai vu une dame là au camp de Gap qui était tourmentée depuis 20 ans. 20 ans tourmentée. Une chrétienne. Et je peux vous dire que si elle était au camp, la façon dont elle nous a parlé nous révélait bien qu'elle aimait Dieu. Mais elle était troublée à cause de son passé, parce qu'elle ne connaissait pas un des attributs du Seigneur. Elle ne le connaissait pas. Elle le connaissait là, dans la tête. Elle ne le connaissait pas dans son cœur. L'avenir. Est-ce que l'avenir vous fait peur? Quand j'entends certains chrétiens parler, je me demande s'ils sont convertis. Je vais loin, j'exagère un petit peu, volontairement. Mais le Seigneur nous a-t-il pas promis qu'il prendrait soin de nous? Il n'a pas promis le Seigneur? Il n'a pas dit qu'il nous garderait, que le lendemain aurait soin de lui-même? Il l'a dit ou il n'a pas dit? Est-ce qu'il a dit qu'il pourvoirait? Amen. Et nous sommes dans un monde où nous avons besoin de communiquer la consolation. Cette semaine à table, nous avions un petit garçon de 4 ans qui était en train de manger, il était tout tristounette. Et on lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Alors il regardait son bout de pain, il dit, un jour, il n'y aura plus de pain. Un jour, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus là. Je dis, mais qui c'est qui t'a dit ça? La maîtresse. Alors, je dis, attends. Tu sais qu'on est chrétien, 4 ans. Et Dieu a promis qu'il pourvoirait. Le monde est en train de détruire nos enfants. Dès qu'ils sont tout petits, Et je crois que nous, les chrétiens, nous avons un devoir d'amener la bénédiction sur les gens. Les chrétiens, ce sont le sel de la terre. Les chrétiens, ce sont la lumière du monde. Les chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui ont la joie de communiquer ces choses, le devoir de les communiquer. Que ce soit une joie ou un devoir, qu'importe, ça doit se faire naturellement. Vous n'êtes pas à l'aise avec certains amis terrestres ? Dites-moi, est-ce que vous avez des amis ? Je vous demande pas d'en avoir des centaines, mais est-ce qu'on n'est pas bien avec des vrais amis ? Est-ce qu'on est à l'aise avec un vrai ami ? On est à l'aise. Alors comment ça se fait-il qu'on est capable d'être à l'aise avec un véritable ami et qu'on n'est pas à l'aise avec notre Père Céleste ? C'est quand même une question qui mérite d'être posée. Est-ce que Dieu ne tient pas à ce que nous soyons à l'aise avec lui ? Brice nous rappelait dans les chants ce matin que Jésus a dit, avant de mourir, alors qu'ils allaient l'abandonner, alors qu'ils certains allaient vraiment faire des choses pas possibles. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître. C'est pas un honneur que Dieu... Pourtant, il aurait pu dire, écoutez, j'avais l'intention de vous appeler mes amis, mais quand je vois ce que vous allez faire, on en reparlera plus tard. Il aurait pas pu le faire ? On n'aurait pas fait ça, nous ? Est-ce qu'on n'aurait pas fait ça, franchement ? 9 personnes sur 10 auraient fait ça, c'est pas la peine, c'est bon. C'est bon, je voulais vous dire un truc, non, ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais nous devrions être à l'aise avec notre Père Céleste. Et si nous ne sommes pas à l'aise avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je reviens à l'important du témoignage. On y reviendra dans une prédication, je pense, mardi soir. À cette notion de comment la Bible nous demande de consoler. C'est écrit, consoler ceux qui sont abattus. Il y a des gens, ils n'ont pas dû lire le même texte. Ils ont dû lire « Abattez ceux qui sont abattus. Finissez ce... » Non, mais... Ah bon ? T'es découragé ? Il y a peut-être un péché dans ta vie. Eh oui, ils ont une Bible moderne, achevée, ceux qui sont abattus. Et il faut que nous enseignions ces choses, parce que nous vivons des temps difficiles. Ces temps difficiles peuvent empirer. Alors, il faut que l'Église soit cette lettre qui est lue de tous. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes. Nous sommes des lettres. Quand les gens vous regardent, qu'est-ce qu'ils lisent sur vous ? Eh ouais. Qu'est-ce que vous lisez sur la personne qui est en face de vous ? Qu'est-ce que vous lisez sur le chrétien ? Eh oui, nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. Quand les gens discutent avec vous, qu'est-ce qu'ils lisent ? Comprenez ce que l'apôtre Paul dit. Qu'est-ce que vous lisez ? Quand vous regardez ou quand vous discutez avec quelqu'un, vous lisez la grâce, la paix, vous lisez l'angoisse. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions certains attributs de Dieu. Et peut-être que si certains chrétiens ne comprennent pas les attributs du Seigneur, c'est, moi je suis persuadé que ce n'est pas votre faute. Hein. Ne vous apeurez pas. Je suis persuadé que si nous, les pasteurs, nous connaissions mieux Dieu, nous le ferions mieux connaître. C'est évident que personne ne sente mal à l'aise en disant « oui, je suis minable ». Non, sentez-vous tous à l'aise. Et apprenons ce matin à prendre une victoire de plus et à dire « oui ». Je comprends que je dois être une lettre lue. Quand les gens me voient, ils ne voient que de la misère. C'est possible. On va voir tout à l'heure qu'il y a une solution. Mais quand je parle avec quelqu'un, est-ce que je suscite la foi ou est-ce que je suscite l'incrédulité ? Quand vous discutez avec certains chrétiens, vous avez l'impression que Dieu est mort. Vous savez, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce que nous sommes réellement. On peut dire beaucoup de choses. Et le pasteur, je l'ai déjà dit, le pasteur qui m'a formé me le disait souvent, il me disait, Gérard, la vérité, ça se dit pas, ça se vit. Ce qu'on dit, c'est bien. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes une lettre lue. Lorsque les gens vous regardent au travail, ils savent que vous êtes chrétien, peut-être que vous ne parlez pas, mais les gens, ils lisent quelque chose. Ils le voient si vous allez vous comporter comme eux ou si vous allez prendre position. Vous êtes une lettre lue. Et les gens du monde ont besoin de voir des chrétiens. Car si nous sommes restés sur la terre, c'est parce que Dieu veut que nous rendions un témoignage. Notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'elle reflète ? Peut-être que vous passez un moment difficile, et je voudrais que pendant la Sainte-Cène, vous preniez la victoire. Mais votre vie spirituelle, notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'elle reflète? La consolation ou le malaise? Vous pouvez en parler peut-être à quelqu'un, à votre épouse, à votre mari. Soyons honnêtes, pas pour nous accabler, mais peut-être pour nous éclairer. Ma vie, est-ce qu'elle reflète la consolation? Ou est-ce que quand je parle à quelqu'un, je lui fais peur? À cause de mes craintes, je lui communique la crainte? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Le problème, c'est que notre Dieu est au milieu de nous. Notre Dieu, nous le connaissons, nous savons ce qui s'est passé au calvaire. Nous sommes bouleversés par la crucifixion de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous connaissons son caractère? Est-il vraiment ce qu'il dit qu'il est? Est-ce que c'est vrai? Quand Paul dit aux Corinthiens, il est le Dieu de toute consolation, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est capable de nous envelopper de sa paix? Est-ce que Dieu, dans ce monde de malades, est capable de bénir ses enfants? Est-ce que Dieu est capable ce matin de vous envelopper de sa bénédiction et de vous protéger? Quand Jésus nous enseigne à prier, notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du malin. Est-ce que Dieu peut nous délivrer du malin lorsqu'on vit cette prière? Moi, je le crois. Il est le Dieu qui délivre. Est-ce que c'est vrai? Et la consolation, ça ne doit pas être de la théologie. La consolation, ça ne doit pas être une expression pieuse. La consolation, ça doit être une réalité. Je le vis. Chaque fois que c'est nécessaire, que ce soit de grosses épreuves, comme l'apôtre Paul qui a failli mourir, il a été consolé. Et il a consolé les autres. Je ne sais pas ce qu'on traversera, je ne sais pas les épreuves que vous traverserez, mais la consolation, ça doit être une réalité, ça doit faire partie de nos expériences. On doit pouvoir dire, oui, je vais t'aider, je vais étudier le livre de Job. Je veux l'étudier, ce livre. J'ai réalisé quand je priais à Gap, pourtant ce livre, je l'ai lu, et j'en connais pas mal de trucs, mais que je ne le connaissais pas du tout. Et il y a des secrets dans ce livre qui vont nous permettre de découvrir vraiment le caractère du Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Ésaïe? Tiens, on va lire notre texte. Vous voulez bien avec moi dans Ésaïe 66. Dans Ésaïe 66, au verset 3, Dieu parle. Alors, j'ai parlé l'autre jour d'un sujet qui était inépuisable, mais celui-ci aussi, en fin de compte, sur la consolation. Ésaïe 66, verset 13. Il faudrait lire tout le chapitre pour comprendre ce qu'il fait. Mais enfin, on va lire que le verset qui nous intéresse, verset 12. Il a dû dire certaines choses, il y a des choses qui n'allaient pas, on va le voir tout à l'heure. Ils ont irrité Dieu par leur comportement. Mais Dieu quand même, il leur dit, voilà comment on va faire. Ésaïe 70, verset 12. « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur les genoux, comme un homme. » Écoutez bien. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, vous serez consolés. » Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de mieux consoler qu'une maman? Qui c'est qui a créé les mamans? Je pense que Dieu doit comprendre les mamans. Nous, on n'y arrive pas toujours, mais Dieu, oui. Comme un homme que sa mère console. Vous avez vu des enfants? Ils se font un petit bobo, paf, ils s'ouvrent un petit peu le genou, ils sont dans les bras. Ah, ils sont consolés. Ils ont plus mal. C'est vrai, vous avez vu? C'est beau un enfant qui est consolé dans les bras de sa mère. Les mamans qui avaient déjà dû consoler un enfant, un petit neveu, c'est pas une bénédiction? Eh bien, Dieu prend cette image pour nous dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je vais faire, je vous consolerai. Moi, je crois que la consolation du plus grand, du Seigneur, peut être quand même un peu plus grande que celle d'une maman tout attentive et tout attentionnée pour le bien de son enfant. Alors, est-ce que Dieu est vraiment ce consolateur? Ou est-ce que Dieu n'est que ce père sévère? Est-ce que Dieu est ce juge inflexible? Quand vous vous approchez de lui, vous vous approchez de qui? D'un père ou d'un juge inflexible? Qui nous tient à distance, qui nous critique chaque fois qu'on fait un truc de travers. Moi, je crois que Dieu, un jour, sera le juge de l'univers. Je crois qu'un jour, la colère de l'agneau viendra. Le lion de Juda viendra. Et pour qu'on comprenne encore mieux, il parle de la colère de l'agneau. Un agneau, ça ne s'est jamais mis en colère. Et Dieu parle de la colère de l'agneau pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. Oui, un jour, Dieu va juger le monde. Oui, vous le savez ? Un jour, Dieu va juger le monde. Quand l'Église sera enlevée, il va y avoir la colère de Dieu. Mais nous sommes dans la grâce du Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et pour nous, ces enfants, Dieu est notre Père, le Père de toute consolation. Et la grâce de Dieu, elle est une réalité lorsqu'elle nous met vraiment dans le repos. Si la grâce de Dieu, c'est qu'une théorie, c'est qu'une prédication, ça va pas du tout. Il faut que la grâce de Dieu, ça soit une réalité. Je dois entrer dans le repos. Et je peux y entrer maintenant, dans le repos. Il faut être sérieux avec Dieu. C'est pas parce que Dieu est le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, ce Père aimant, compatissant, qu'il faut être léger avec le péché. Bien entendu, je pense que dans ce lieu, les gens sont assez sérieux et ils l'ont déjà compris. Il faut faire les choses comme il faut. Et que si on a irrité Dieu, tiens donc, si on a irrité Dieu, est-ce qu'on peut irriter Dieu? Regardez avec moi Ésaïe 57. Regardez comment il réagit. Il parle à son peuple. Bon, il faudrait lire tout Ésaïe. Il faudrait lire au moins 20 chapitres pour comprendre ce que je veux vous dire. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais vous pouvez le faire chez vous. Alors Dieu explique ce qu'il veut faire, comment il veut les aider. Et à un moment donné, il dit, voyez, verset 17, Ésaïe 57, 17. « À cause de son avidité coupable, je me suis irrité. » Voilà, on voit que Dieu s'est irrité, c'est une façon de parler bien sûr. « Et je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle, vous voyez, à la place de changer, il a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. » Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres, etc., etc. Dieu est en train de dire, oui, il y a des choses irritantes, il y a des péchés. Tout ça, il va falloir le régler. S'il y a un péché dans votre vie, réglez-le. Il faut quand même être sérieux. Parce qu'au nom de la miséricorde, au nom du pardon, au nom de la consolation, il ne faudrait pas que nous jouions avec le péché. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle Dieu permet que nous traversions des épreuves. Toutes les épreuves ne viennent pas de notre désobéissance, mais parfois nous l'avons irrité, pour reprendre l'expression du texte, alors Dieu va nous attirer, comme il dit dans Osée, dans le désert, pour pouvoir parler à notre cœur. Je l'attirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. On est affligé. On est affligé des fois à cause de preuves que Dieu permet. Des fois on est affligé à cause de notre propre péché. Mais quelle que soit l'affliction que nous sommes en train de traverser, Jésus a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, Dieu ne les abandonne pas. La religion peut les abandonner. La personne religieuse abandonne les gens dans l'affliction. Les gens qui connaissent la consolation, ils ne les abandonnent pas. Ils les consolent. Il n'est pas écrit, Dieu abandonne ceux qui sont abattus. Il est dit, Dieu console ceux qui sont abattus. Il n'est pas dit Dieu oublie ceux qui sont abattus, il est dit Dieu console. À moins de refuser la consolation. J'y reviens parce que beaucoup de chrétiens se mettent eux-mêmes dans le rouge à cause de cette décision. Oh je suis misérable. Mais justement, c'est pour ça que Dieu console. Eh oui. Pourquoi Dieu console? Mais parce que justement ça va pas. Si on n'avait pas besoin de consolation, s'il n'y avait pas d'erreur, de péché, de comportement qui ne produisent pas de blessure, on n'aurait pas besoin de consolation. Des hommes dans la Bible ont refusé d'être consolés. Pourquoi Jésus est venu? Vous rappelez quand Ésaïe, et même lui d'ailleurs, il répète la prophétie d'Ésaïe, qu'aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus est venu pour consoler tous les affligés. On va le lire puisqu'on est dans Ésaïe, tiens, vous n'aurez pas beaucoup de pages à tourner. Ésaïe 61. Il faut quand même le lire. Ésaïe 61, verset 2. Donc, on va lire le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, verset 3, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Tous, je les entourerai. Tous les affligés. Est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Si Dieu n'avait voulu consoler que les meilleurs, au cas où il y en aurait, il l'aurait dit. Le Seigneur dit, tous les affligés. Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais si Dieu dit tous les affligés, c'est que ce matin, tous les gens qui sont ici peuvent être consolés. C'est comme ça. Nous, on ne comprend pas les choses, comment elles évoluent. Nous, on a un cœur compliqué. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a un cœur compliqué? Vous vous rappelez, lorsque les disciples demandèrent à Jésus, il y avait Jean dans l'affaire. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui a écrit les épîtres, vous savez, et l'évangile, qu'on conseille à tous les gens pour découvrir l'amour de Dieu. Vous savez, quand ils ont visité la Samarie, ils étaient dans une ville, et ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. Alors Jean, très inspiré, a dit à Jésus, mais pourquoi tu ne fais pas descendre le feu du ciel? Ils n'ont pas voulu te recevoir. Il y a des gens, ils ont des méthodes expéditives pour régler les problèmes. Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Je pensais à ce verset hier, quand je regardais les informations, la gay pride, le mariage des homosexuels fêté à New York, et je me suis dit, comment il faut réagir? Et j'ai pensé à ce verset, écoutez, ce n'est pas notre problème. Les choses ne s'arrangeront pas, on le sait. Les choses iront en empirant, puisque la Bible dit que du temps de Noé, la terre était pleine de violence, et qu'il en sera de même. Donc nous, on n'a qu'à dire, Seigneur, pendant que la porte est ouverte, pendant que la grâce est là, fais leur grâce. Est-ce que Dieu peut sauver des homosexuels? Est-ce que dans l'église de Corinthe, il y avait des homosexuels? Des ex-homosexuels. Il le dit, mais c'est ce que vous étiez. Et Dieu vous a lavé. Et on n'a pas dit, fais descendre le feu du ciel sur ces manifestations. Vous savez, moi j'entends des chrétiens parfois. Franchement, je ne voudrais pas qu'ils prêchent à ma place. Je le dis sérieusement. Ou dans une église. Parce que je crois que les choses sont ainsi. L'homme n'a pas voulu de Dieu. On s'attire l'abomination tout seul. Mais je crois que tant que la porte de la grâce est ouverte, prions pour eux. Amen. Ne les jugeons pas. On peut juger l'homosexualité. On peut la condamner parce qu'elle est condamnable. Mais ces hommes, ces femmes ont besoin de rencontrer Jésus. Est-ce que Dieu peut en sauver encore? Est-ce que Dieu peut en sauver? Est-ce que Dieu peut sauver des adultères? Vous rappelez la femme adultère? Prise en flagrant délit d'adultère par des pharisiens qui devaient fouiner pour arriver à la choper. Et ils l'ont attrapée. Et ils ont dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va la lapider et on va coincer le Seigneur. On va se coincer le Jésus. Vous connaissez l'affaire? Et ils se sont tous approchés. Ils n'avaient pas pris l'homme, ils n'avaient pris que la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle doit être lapidée. La loi dit qu'elle doit être lapidée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas si vous vous imaginez la frayeur dans laquelle devait se trouver cette femme. Elle savait qu'elle allait mourir. Nous, on lit, on sait. Nous, le problème, ce qui nous permet de. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien de connaître la Bible par cœur. Mais ça ne nous permet pas de comprendre ce que les gens vivaient, puisqu'on connaît souvent la fin. Cette femme, elle devait être effrayée des hommes qui attendaient ce que ça pour la lapider. On n'a pas trouvé mieux que de se pointer devant le Seigneur Jésus. La loi ordonne que de telles femmes soient lapidées. Et quelle grâce que celui de vous qui n'a pas péché lui jette en premier la pierre. Et cette femme est restée toute seule. Ils sont tous, pour une fois qu'ils ont bien réagi, ils sont tous partis. Et cette femme était là toute. Moi, je l'imagine, cette femme. Je l'imagine vraiment. Toute tremblante, aux pieds de Jésus. C'était bien, ça, ce rendez-vous? Ils ont bien fait, les pharisiens, pour une fois. Merci, Seigneur, pour leur bêtise qui s'est bien terminée. C'était pas merveilleux, ça? Je ne te condamne pas, non plus. Va, et ne pêche plus. Fais sans vouloir ajouter à la Bible, je pense qu'elle a vraiment dû être consolée. Vous croyez pas? Vous croyez qu'elle a dû repartir consolée, cette femme? Si j'étais pas pasteur, je remplacerais Spielberg. et je ferai des films sur les scènes de la Bible.
Ouais.
Quelle merveilleuse histoire. C'est pas vrai? Elle n'est pas belle, cette histoire? Comment elle a dû partir, cette femme? Elle a été consolée. Elle connaissait le Seigneur. Elle l'a connu, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça ne m'étonnerait pas qu'elle était dans la chambre haute plus tard. Enfin, qu'importe. Mais elle a vécu quelque chose. Nous sommes dans le temps de la grâce, il y a des pécheurs partout, de la misère partout. On n'a pas à demander que la colère de Dieu vienne, on n'a pas à demander que le Seigneur Jésus précipite l'enlèvement, parce que, bien sûr que nous, on a tout bénef. Si Jésus revient nous chercher, qui c'est les premiers gagnants? Ben c'est nous. Vous vous rendez compte, transformer les noces de l'agneau, les robes de fin lin, fini la poussière, le ménage, le repassage, tout fini, la gloire éternelle. Parce qu'il est dit que l'épreuve aura pour résultat la gloire, l'honneur et la louange pour nous. Pas que pour Dieu ça, pour nous. Quand Jésus apparaîtra. Alors ne nous perdons pas dans certaines considérations. Oui, il y a des choses terribles. Oui, il y a des gens qui méritent la colère. Elle finira par les atteindre. Ne nous en réjouissons pas. Réjouissons-nous de connaître le Seigneur. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et connaissons ce Dieu qui console. Si votre cœur est troublé, il y a des chrétiens qui sont toujours troublés. Moi, ça finit par me troubler. Que les gens soient toujours troublés. C'est parce que vous vivez mal votre foi. Il est venu consoler tous les affligés. Tous. Vous entendez? C'est comme ça que Dieu a voulu. Tous. Et dans ce monde d'affliction qui est le nôtre, je crois que seule l'Église peut consoler les gens. Oui ou non? C'est les élections l'an prochain qui changeront quelque chose? À ce sujet, je prépare une étude sur la façon dont on doit se soumettre aux autorités. J'ai été interpellé, je fais une digression pour une autre prédication. Parce que beaucoup de chrétiens sont en disgrâce devant Dieu, à cause de ça. Vous savez, je réalisais quand Pierre a écrit « Honorer le roi ». Le roi, à l'époque, c'était Hérode, qui avait fait décapiter son copain, Jacques. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je voudrais, mes frères et sœurs, faire une étude sur les gouvernements dans la Bible, pour vous expliquer comment Dieu, où Dieu a placé parfois le peuple de Dieu. Pour que nous comprenions comment nous comporter devant les autorités. C'est dans ce cadre-là où Dieu dit qu'il en soit ainsi d'honorer, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Quand je vois comment certains chrétiens parlent du président de la République, vous pouvez arrêter de prier, je vous le dis. Vos prières ne peuvent pas être exaucées. Je crois que la Bible dit nous demande de prier pour les autorités, parce que la prière influence l'avenir d'une nation, dont des élections. On en reparlera peut-être dimanche prochain. Et priez pour ça. Ce sont des choses sérieuses. Elles sont écrites dans la Bible. Tout ce qui a été écrit est important. Ça a été écrit pour nous enseigner. L'apôtre Paul dira ailleurs que ce qui a été écrit afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans quelques instants, on va prendre la Sainte Cène. D'accord? Le Seigneur est le Consolateur. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est le Consolateur? Jésus n'a pas dit, quand je serai parti, vous voyez cette sollicitude, quand je serai parti, je vous enverrai un autre moi-même, un autre consolateur, afin qu'il demeure quelques jours avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà la promesse. Et en plus, il rajoute, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, je m'occupe, je sais, ça ne va pas aller, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous avez vu cette sollicitude, il va mourir. Tout le monde va l'abandonner et lui, il prend des heures à les rassurer. À un moment donné, même, il leur dit, mes petits-enfants, c'est pas beau ça? Je vous enverrai un autre moi-même, le Consolateur. Il restera avec vous éternellement. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous aurez besoin de consolation, il sera là. Et je ne voudrais pas ce matin que quelqu'un comme Rachel, comme David à un moment donné, refuse la consolation. Comme Jacob qui a refusé la consolation. Est-ce que vous la voulez la consolation? Est-ce que vous voulez devenir de véritables consolateurs? Vous allez voir tous ces textes qui nous permettent de consoler les autres, mes frères et sœurs. Alors je termine avec un texte, parce que ça m'a quand même interpellé dans Ésaïe 53. Puisqu'on est dans Ésaïe, c'est un beau livre Ésaïe. Ésaïe 53. Ah non, c'est pas 53. C'est un texte. Ah, oh, c'est pas vrai. En principe, les textes, je ne les marque pas. Des fois, ils me viennent à l'esprit. Alors, c'est un texte où Dieu dit qu'il a pitié de nos ruines. Oh, ce que je suis. Vraiment, je suis fatigué. Le conseil d'administration, il vous faut me donner du congé quand vous me voyez comme ça. Un mois et demi. D'accord ? Bon, tant pis. Vous me faites confiance, je pense. Dieu dit, il a pitié de toutes nos ruines. C'est pas magnifique ? Il a pitié. Il le voit. Peut-être que ce matin, vous dites, mais moi, je suis complètement ruiné. Spirituellement, je ne vois rien. J'arrête pas de pécher. Je vous le dis, Jésus est assis sur le trône de la grâce. Et il a pitié de nous. Bien sûr que, comme je disais tout à l'heure, ne jouons pas avec le péché. Mais pour être consolé, il faut croire à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Il faut croire. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu ? Parce que parfois les gens me disent, mais je ne sens pas, je ne le sens pas. Imaginez-vous, vous prenez le bateau ce soir, ou l'avion, ou le train. Imaginez-vous, prenez l'avion, ou quelqu'un vient avec vous, vous allez prendre l'avion, et avant de monter dans le bateau, par exemple, le gars il vous dit, avant de monter, attends, je voudrais ressentir si le capitaine de ce bateau, il est digne de confiance. Je veux sentir. Mais, ou avant de prendre l'avion, imaginez quelqu'un, non, je monterai, mais quand je sentirai que le capitaine, c'est un gars qui est bien, vous risquez de manquer l'avion. Je pense que la foi, c'est d'abord je crois, et puis j'expérimente après. Vous comprenez ? Merci. Prochain pasteur stagiaire. C'est Ésaïe 51, verset 3. Voilà. Ésaïe 51, on peut le lire. C'est quand même bien. Merci, Daniel. Merci. Je savais qu'il connaissait la Bible par cœur, c'est brave. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. De toutes ses ruines. Il sait, le Seigneur, ce qu'il veut faire. Et les Écritures, elles doivent vous consoler. L'apôtre Paul dit, les Écritures donnent la consolation. Et c'est comme pour le salut. Je ne sens pas le salut pour me convertir. Je me convertis et je reçois la paix et le pardon. On ne peut pas dire que bon, quand je sentirai le pardon, je me repentirai. Et vous allez attendre longtemps. Pour ressentir le pardon, expérimenter le pardon, en tous les cas, l'expérimenter, il faut d'abord se repentir. Pour obtenir la consolation, il faut croire à la consolation. Est-ce que vous croyez à la consolation ? C'est pour ça que des chrétiens ne reçoivent pas, parce qu'ils ne croient pas. Vous comprenez ? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors mes frères, mes sœurs, il faut que nous avancions dans ce sujet. Mais je crois que la meilleure façon d'apprendre à consoler les gens, c'est d'être touché par la consolation du Seigneur. Parce qu'il y a, beaucoup de textes où l'apôtre Paul dit, mais apprenez à consoler. Parce que les gens souffriront. Même dans l'église, il risque d'avoir de plus en plus de souffrances. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait de la souffrance dans les églises ? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait davantage de souffrance ? Est-ce que vous connaissez les frères et sœurs qui souffrent ? Merci Béatrice, décidément. Est-ce que vous connaissez des gens qui souffrent ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dans les jours qui suivent, nous prions et nous disions, Seigneur, apprends-moi à consoler. C'est sûr que la façon la plus adéquate, c'est d'avoir été consolé. Il y a des gens, ils veulent faire du bien et ils font du mal. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils font du mal. Alors on veut faire du bien. Quelqu'un veut-il prendre la victoire ? On ferme les yeux quelques instants. On va prendre le pain et le vin. Janson, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez choisir quelques frères pour distribuer la Sainte Cène ? Juste un texte, ne le cherchez pas. Dans le psaume 102, pour introduire ce moment de Sainte Cène qui correspond bien à ce que nous venons de partager, dans le psaume 102, il y a un verset, moi, qui m'a bouleversé un jour. Vous savez qu'il est dit que nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas, nous avons été misérables, nous l'avons dédaigné, dit la Bible. Vous l'avez lu ce verset ? Nous l'avons dédaigné. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume 102? Il est écrit, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que son nom soit béni. Nous, on l'a dédaigné? On n'a fait de lui aucun cas? Et pourtant, nous, quand on a prié, lui, il ne nous dédaigne pas. Oui, il est le Dieu de la consolation. Et si j'ai volontairement voulu qu'on prenne la Sainte Cène après, c'est pour que personne ne se prive de cette consolation, de cette grâce, de cette guérison. Est-ce que Dieu peut guérir un corps ce matin? Est-ce qu'il faut mériter la guérison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait expliquer qu'il faut mériter la guérison? Il a pitié de nos ruines, il a pitié de notre misère, il ne nous dédaigne pas. Saisissez la guérison par la foi. Il est là pour vous aider ce matin. On l'a chanté, son nom est Jésus. Il est là pour bénir, pour consoler tous les affligés, pour guérir tous les cœurs brisés. Vous êtes dans le deuil, il peut mettre un vêtement de louange. C'est le ministère de Jésus-Christ pendant la dispensation de la grâce. Il est le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation. Oui, il va venir, le lion de Juda. Mais en attendant, on n'a pas réclamé la colère, on n'a pas réclamé le feu du ciel, on a réclamé la grâce et le pardon. Je voudrais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever maintenant à leur place et avec cœur de saisir la bénédiction. Peut-être vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, peut-être vous n'êtes pas encore repenti, converti, engagé avec Dieu malgré votre religion. Ce qui est important, c'est qu'à votre place, que vous soyez debout ou assis, vous saisissiez la bénédiction de Dieu. Par la foi, vous n'avez pas besoin de ressentir. Ne faites pas comme cet homme qui, avant de prendre le bateau, voudrait ressentir quelque chose. C'est ridicule. Eh bien, les chrétiens sont parfois, excusez-moi le terme, ridicules parce qu'ils veulent sentir, alors que Dieu dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, prends. Si tu crois que la Sainte Cène a été instituée par Jésus-Christ pour amener la bénédiction lorsqu'on s'éprouve, lorsqu'on sonde son cœur, oui, il y a ça, tu me montres ma ruine. Mais il ne te dit pas, tu es ruiné, ah, tu es dans la ruine, spirituellement. Eh bien, écoute, eh bien, c'est comme ça. Il a pitié, le Seigneur. Il est le Dieu de toute consolation. Et il va vous bénir. Et après ça, vous le saurez quand vous aurez béni, parce que vous bénirez les autres. Ah, c'est pas compliqué. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est béni? Il bénit les autres. Notre Père, notre Dieu, nous sommes à tes pieds. Et comme nous sommes bien avec des amis, nous sommes bien avec toi, Seigneur. Nous nous sentons vraiment bien avec toi. Parce que nous savons que ce matin, tes regards sont des regards de compassion, d'amour, de miséricorde et de consolation. Et que si c'est vrai que le monde s'attire la colère, nous nous attirons ta grâce, parce que tu es sur le trône de la grâce. Oh, fais en sorte, Seigneur Jésus, que tout le monde ce matin puisse saisir ta bénédiction. Que personne ne sorte affligé. Tu as dit que tu consolerais tous les affligés. Et qu'ils seraient heureux même de pleurer, parce que tu les consolerais. Tu vois notre monde malade, dépressif. Oh, que dans les jours qui vont suivre, cet après-midi, tout à l'heure, demain, sur notre chantier, au travail, dans le bureau et dans la maison, nous puissions bénir et consoler les autres. Fais-nous grâce, oh Dieu. On ne veut pas ressembler aux consolateurs de les amis de Job. Non, nous refusons d'utiliser ta parole à tort et à travers. Nous voulons l'utiliser pour faire du bien. Merci, mon Dieu. Merci. Merci Seigneur.